connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, que tu aies les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, ce message nous enseigne qu'un amour suprême pour Jésus doit caractériser la vie de toute Église et être à la base de tout service chrétien. Et ce matin, j'aimerais considérer avec vous trois interventions du Seigneur auprès de l'Église d'Éphèse. Tout d'abord, il y a sa perception. Ce que le Seigneur voit quand il regarde son Église, celui qui marche au milieu des sept chandeliers dedans n'est pas aveugle quant au bien qui se trouve chez elle. Et remarquons bien ce qu'il dit au verset 2. « Je connais tes œuvres, je connais ton travail, ta persévérance, etc. » Cette Église avait toute une réputation, bâtie solidement sur une passée dorée. Elle avait été fondée par nul autre que l'apôtre Paul. Actes chapitre 19, pas besoin d'y tourner, mais nous relate les détails où Dieu, par la prédication puissante de l'apôtre, avait fait une œuvre extraordinaire pour établir une lumière dans un lieu ténébreux, renommé pour son temple dédié à Diane ou Artemis, déesse, à qui on rendait un culte à travers l'immoralité sexuelle, et renommée aussi pour la pratique des arts magiques. Et Dieu avait établi une lumière dans cet endroit. Il y avait aussi des gros canons, comme on pourrait les appeler, tels que Aquila et Priscille, Apollos, Timothée, et même l'apôtre Jean avait œuvré parmi eux à Éphèse. Et elle était probablement l'église mère des six autres des trois églises mentionnées dans Apocalypse chapitre 2 et 3. L'épître aussi qui porte son nom, l'épître de Paul aux Éphésiens, est rempli de toutes sortes de richesses spirituelles, jusqu'au point qu'on l'a surnommé le frigo spirituel. Et dans notre texte pour ce matin, nous le voyons quelques 40 années plus tard. C'est une deuxième génération de croyants que le Seigneur adresse ses paroles. Et comme je dis, il va tout d'abord à souligner leur réputation. Une réputation caractérisée par un dévouement exemplaire. Et il y avait des œuvres, comme on a vu dans le texte, du travail. On y persévérait. Comme on dirait un bon Québécois, là, ça grouillait dans cette église. Il n'y avait pas de place pour la passivité, c'est une église très impliquée. Il y avait sans doute des œuvres auprès des pauvres, des veuves, des orphelins. Elle était sans doute aussi très impliquée dans l'évangélisation, impliquée dans les programmes pour les jeunes, les moins jeunes, les aînés. Peut-être il y avait aussi probablement une très belle chorale qui inspirait l'église dans l'adoration du Seigneur. Et de toute manière, il y avait du service. Et voilà une église qui mettait en pratique à travers sa vie de l'église, le texte que nous trouvons dans Colossiens 3, 24, qui nous dit « Servez Christ le Seigneur ». Et Éphèse faisait cela. Il y avait aussi sa réputation était caractérisée par la discipline exercée. Et si vous regardez votre texte encore, vous allez voir qu'au verset 2b, l'apôtre Jean, Jésus va dire à cette église « Tu ne peux supporter les méchants ». Au verset 6, il va leur dire, tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? J'aimerais vous suggérer que cette Église prenait le péché au sérieux. Implantée dans une société où est-ce que le péché abondait, elle avait refusé de baisser le standard. Il est intéressant à noter la signification du mot Nicolaïte, dérivé du mot Nicolas, qui veut dire vainqueur du peuple. Et selon les pères de l'Église, Nicolas prônait une vie d'immoralité tout en se disant chrétien et avait aussi entraîné d'autres à sa suite. Et cette Église rejetait carrément ce péché. Et sans doute excommunier et mettait sous la discipline ceux qui y persistaient, sachant très bien que le péché possède le potentiel de vaincre le croyant. Et comme nous avons dans la parole de Dieu un peu de levain, le péché, admis dans l'Église, toléré dans l'Église, fait lever toute la pâte, c'est-à-dire contaminerait toute l'Église. Et il mettait en pratique ce texte qui dit « Faites disparaître le vieux levain ». Et troisièmement, cette église aussi était caractérisée, avait une réputation pour le discernement éveillé. Le texte dit au verset 2c, « Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés mentants. » À l'époque, il y avait des faux docteurs qui fleurissaient. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Nous ne devrions pas être surpris parce que la parole de Dieu nous dit que ces hommes-là sont des faux apôtres, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Mais à Éphèse, les faux docteurs étaient exposés par des croyants qui usaient du discernement, à l'instar de ceux de Béré, qui, selon Actes chapitre 17 et au verset 11, quel beau texte, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors, à Éphèse, il était impossible de leur passer un sapin. Impossible. Alors voilà l'église d'Éphèse, caractérisée par le service, caractérisée par la séparation, caractérisée par la sainte doctrine. Voilà l'église d'Éphèse solide qui faisait toutes ces choses. Et plus étonnant encore, persévérait à les faire malgré l'hostilité et la persécution des ennemis de Dieu. Et on dirait, waouh, toute une église. On aimerait avoir une église comme celle-là. On aimerait être une église comme celle-là. Mais, vous savez, celui qui peut voir tout ce qui est bien dans une église peut aussi voir tout ce qui est mal. Il n'ignore pas le bien, mais il n'ignorera pas non plus le mal. Il voit leur réputation, mais il voit aussi leur réalité. Et si vous regardez votre texte au verset 4, il va dire ceci, « Mais, et quel mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Juste faire deux remarques à propos de ce texte. Tout d'abord, la déception du Seigneur. Ce que j'ai contre toi. Cette église dissimulait ce que nous pouvons appeler une faiblesse fatale. De l'extérieur, ça paraissait très beau. Peut-être même d'autres églises enviaient le statut et la réputation d'Éphèse. Avec tout ce qu'elle faisait, personne n'aurait pu soupçonner son vrai état, sauf le Seigneur. Parce que celui qui connaît ce que nous faisons, connaît aussi ce que nous sommes. celui qui connaissait leur réputation connaissait aussi leur relation avec lui. Et il savait que dans cette relation, dans cette église, leur relation avec lui avait été remplacée par leur réputation pour lui. Jésus est celui qui connaît tout, mais Jésus aussi est celui qui voit tout. Et ce qu'il a vu à Éphèse a dû l'attrister au plus haut point. Parce que celui qui prononce ces paroles, ce que j'ai contre toi, est notre Dieu qui dit à ses enfants, Jérémie 31:3, je t'aime, d'un amour éternel. Et qui dit à ses enfants dans Exode 20, verset 5, « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Jaloux de ma relation avec toi. Et ensuite, il y a le diagnostic. Tu as abandonné ton premier amour. Jésus regarde cette église qu'il aime passionnellement, cette église pour qui il s'est sacrifié lui-même en mourant pour elle sur la croix, et lui dit, « Ton amour pour moi fait défaut. » Et dans l'original, il y a deux mots ici qui sont assez intéressants. « Abandonner » a le sens de délaisser, à laisser seul, à négliger. Et même, on utilisait ce mot quand on parlait d'un homme qui répudiait, qui divorçait sa femme. Et le mot « premier » peut avoir deux sens. « Premier » en priorité, ou bien aussi en chronologie. Et dans le contexte, abandonner ton premier amour ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas d'amour pour Jésus, mais plutôt que la qualité de leur amour pour Jésus avait faibli. Il est intéressant que Parole de vie traduit ce texte comme suit, « Tu ne m'aimes plus comme au début. » Quelqu'un a bien dit, les Éphésiens aimaient toujours leur Église, leur doctrine, leurs activités. Ils aimaient toujours tout ce qu'ils font. La problématique, c'est qu'ils n'aiment pas Jésus plus que toutes ces autres choses. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, comme on l'appelle, en commentant ce texte, dit ceci, « Tu as abandonné ton premier amour, c'est le plus grand mal de tout. Car l'Église est l'épouse de Christ. Et l'Église qui échoue dans l'amour échoue partout. En tant qu'Église, nous devons aimer Jésus, sinon nous avons perdu notre raison d'exister. Abandonner l'amour et nous perdons tout, notre joie, notre paix, notre force, notre sainteté. » Ceci n'est pas l'accusation d'un ennemi, mais c'est plutôt la plainte d'un ami profondément blessé. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'aucune quantité de service, de sacrifice ou même de séparation peut combler le manque d'amour. Et vous savez, aimer Dieu, c'est le premier. Et le plus grand de tous les commandements. Jésus a dit dans Matthieu 22, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et c'est sur la base de l'amour que nous performons les deux activités de la vie chrétienne, l'adoration et le service. Sur la base de l'amour, nous adorons Dieu. Et quel bel exemple nous avons dans la vie d'Abraham qui a dit à ses serviteurs, Genèse 22, verset 5, « Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. » Et dans le contexte, il nous démontre qu'il y avait un amour suprême pour Dieu, même si adorer impliquait sacrifier son fils Isaac qu'il aimait. Et sur la base d'amour aussi, nous servons Dieu en nous rappelant de l'exhortation que Jésus adresse à Pierre dans Jean 21, versets 15, 16 et 17. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Alors, paie mes agneaux, paie mes brebis. » 1 Corinthiens 13 nous dit ceci, que nous aurons, même si nous aurons toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, même si nous distribuerons tous nos biens pour la nourriture des pauvres, sans amour, cela ne nous sert à rien. Alors ce matin, nous avons tous besoin, et moi le premier, et à nous poser cette question si importante. Comment est mon amour pour Jésus? Quand Jésus regarde mon propre cœur, qu'est-ce qu'il voit? Quand Jésus regarde l'église de Cap-la-Madeleine, que voit-il? Faudrait-il qu'il nous dise ce matin, soit individuellement et collectivement, tu fais de bonnes choses, mais j'ai quelque chose contre toi. Si vous n'êtes pas certain de la réponse, je vous encourage à faire ce qu'il a fallu que je fasse moi-même en préparant ce message, de lui demander en priant ainsi, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mais non seulement il y a la perception du Seigneur, il y a aussi la prescription. La prescription du Seigneur. Jésus va offrir maintenant à cette église un remède. Et pourquoi est-ce qu'il fait cela? Parce qu'il cherche non pas à les écraser, mais à les aider. Non pas à les rejeter, mais plutôt à les relever. Et après avoir exposé leurs péchés, il leur montre maintenant comment ils peuvent le corriger. Quel Dieu miséricordieux, hein? Quel Dieu miséricordieux nous avons. Et quels beaux exemples nous avons dans sa parole. La grande miséricorde que Dieu a exercée à l'égard de Caïn, dont l'offrande des fruits a été rejetée. Et Genèse chapitre 4, verset 5 nous dit ceci, que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il s'approche de Caïn. Et quelle douceur dans ses paroles. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Bref, voici le chemin à prendre, Caïn, pour corriger ta situation. Prends-le et tout ira bien. Malheureusement, on sait la suite. Caïn n'a pas écouté. Et il y a aussi le cas de Simon Pierre, Simon le brave, le courageux, Simon qui a renié son maître. Et encore une fois, Jésus, le Dieu de toute miséricorde, après sa résurrection, apparaît à son disciple et doucement, tendrement, lui montre le chemin de retour. Mais revenons à nos moutons, l'église d'Éphèse, à qui maintenant le docteur Jésus, comme j'aime l'appeler, va prescrire un remède. Tout d'abord, cette église, elle doit se rappeler. Jésus va leur dire, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Et c'est intéressant de remarquer que Jésus compare ce manque d'amour comme une chute. Rappelle-toi, Jésus est en train de leur dire, « Comment était ton premier amour pour moi ?» Et compare cela avec ta condition présente. Rappelle-toi qu'au début, rien ne pouvait te faire détourner de moi, ton Seigneur. Rappelle-toi comment tu étais captivé par ma personne. J'étais ta vie, ton amour, ta joie. Rappelle-moi comme toi, comme moi, ton Seigneur, je me rappelle. Et ce que je dis à Israël, applique-le à ton propre cœur. Jérémie 2:2, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Et de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, Israël était consacré à l'Éternel. Comme le Fils se prodigue dans un pays lointain, rappelle-toi des délices du maison du Père. Elle doit aussi, cette Église, elle doit se repentir. Jésus va dire à Éphèse, repens-toi. Je suis digne de recevoir ton amour. Pourquoi donc l'as-tu abandonné? Est-ce que j'ai changé à ton égard? Est-ce que je t'aime moins qu'avant? Suis-je devenu moins soucieux, moins attentionné, moins tendre, moins miséricordieux, moins compatissant à ton égard? Et encore dans l'esprit de Jérémie 2, quelle iniquité as-tu trouvé en moi pour t'éloigner de moi? Et nous savons que la réponse de Jésus-Christ est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas Jésus qui avait changé, c'est son Église qui avait changé et à cause de cela, elle avait besoin de se repentir. Et encore pour revenir à l'exemple du fils prodigue, elle avait besoin de dire « j'ai péché contre le ciel ». Ou bien comme David dans Psaume 51, « j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux ». Et troisièmement, se rappeler, se repentir, mais aussi l'Église doit retourner. Retourner à son état premier. Le fils prodigue, brisé, repentant, a dit ceci, « Je me lèverai et j'irai vers mon Père. » Et Jésus dit à cette église à Éphèse, « Retourne, pratique tes premières œuvres. Retourne à ce que tu faisais au début quand ton cœur était rempli d'un amour extravagant pour moi. » Et j'aimerais ici vous donner quelques exemples des premières œuvres.